Longtemps, pas longtemps. Dans l'étendue qui embrasse l'univers, je me suis mise au lit un peu avant le temps indiqué.
J'appuyais tendrement mes joues contre les belles joues de l'oreiller.
В больницу с сотрясением мозга увозят 5 человек. Бастовать мирно сотрудникам французского ГУДР надоело. В окна завода и в полицейских полетели булыжники и тухлые яйца. Руководство крупнейшего американского производителя покрышек убедить так и не получилось. Филиал в Амьен-Нор закрывают, 1100 человек уволят. Продажи колес для малолитражек продолжают кризисные пики. Для них это крайняя мера. Законопослушные сотрудники автогиганта проводят на завод по собственным пропускам в обход руководства, отключив камеры наблюдения. Такие выходки по местным меркам – стопроцентное увольнение. Киев. Но шансов не потерять работу у этих людей все равно не осталось. В знак протеста на заводе играют в карты и курят. Такие...
Пусть все стоит брошенным. Мы не собираемся доделывать машины. Только это и пугает нашего босса.
Багеты и чай из пакетиков. Сотрудники Peugeot Citroën в северном пригороде Олне-Субуа игнорируют даже заводскую столовую.
Это тяжелейшая работа. Лично я здесь уже 25 лет. От здоровья ничего не осталось. Куда я пойду? На биржу? Кому я там нужен?
Aujourd'hui, on est là, et demain on continue.
300 автомобилей до обеда и 400 после, до начала забастовки. На этом заводе выпускали порядка 700 машин ежедневно. Сегодня утром сборочную линию блокировали рабочие. Главный конвейер, вот он, остановлен. Руководство не идет на переговоры. На проходной просто повесили объявление. Предприятия закрывают. За последние два года производство сократилось в три раза. Объем продаж хэтчбеков Citroën C3 – это единственная модель, которую собирают на заводе. Снизился на 30%. Этот завод компании просто не нужен. В апреле 14-го, ровно через год, уволят всех 3000 безработных. Впрочем, еще не предел. Peugeot, затеяв оптимизацию производства, оставит на улице 8000 высококлассных специалистов. Такого во Франции еще никогда не случалось.
Longtemps, je me suis couché de bonne heure.
Longtemps, pas longtemps.
Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ».
Longtemps, je me suis couchée de bonne heure. Longtemps, je me suis couchée de bonne heure. Pendant un long espace de temps, je me suis mise au lit un peu avant le temps indiqué. Pendant un long espace de temps, je me suis mise au lit un peu avant le temps indiqué.
Et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir dans les mains et souffler ma lumière. Je n'avais pas cessé, en dormant, de faire des réflexions sur ce que je venais de lire, mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage. Une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Cette croyance survivait pendant quelques secondes à mon réveil. Elle ne choquait pas ma raison, mais pesait comme des écailles sur mes yeux et les empêchait de se rendre compte que le bougeoir n'était plus allumé. Puis elle commençait à me devenir inintelligible comme après la métempsycose les pensées d'une existence antérieure. Le sujet du livre se détachait de moi, j'étais libre de m'y appliquer ou non. Aussitôt je recouvrais la vue et j'étais bien étonné de trouver autour de moi une obscurité douce et reposante pour mes yeux. Mais peut-être plus encore pour mon esprit. à qui elle apparaissait comme une chose sans cause, incompréhensible, comme une chose vraiment obscure. Je me demandais quelle heure il pouvait être.
Longtemps, durant un certain laps de temps, insuffisamment réduit dans l'étendue qui embrasse l'univers, j'ai attaqué par ma plume la tête d'un silence prescrit comme traitement. La tête d'un silence prescrit comme traitement. Longtemps. De bonne humeur.
Je me demandais quelle heure il pouvait être. J'entendais le sifflement des trains qui, plus ou moins éloignés, comme le chant d'un oiseau dans une forêt, relevant les distances, me décrivaient l'étendue de la campagne déserte où le voyageur se hâte vers la station prochaine. Et le petit chemin qu'il suit va être gravé dans son souvenir par l'excitation qu'il doit à des lieux nouveaux, à des actes inaccoutumés, à la causerie récente, et aux adieux sous la lampe étrangère qui le suivent encore dans le silence de la nuit. À la douceur prochaine du retour.
Longtemps, durant un certain laps de temps, Monsieur Durand fit son service avec modestie, avec sa retraite. Avec sa retraite, à laquelle on ajouta de l'eau, il se mit à choisir son monde. Des immortels susceptibles d'entretien. Il séduisit un écrivain avec le petit bout d'un pain de sucre. Cette réserve profonde lui était imposée par ses appointements.
J'appuyais tendrement mes joues contre les belles joues de l'oreiller qui, pleines et fraîches, sont comme les joues de notre enfance. Je frottais une allumette pour regarder ma montre. Bientôt minuit. C'est l'instant où le malade qui a été obligé de partir en voyage et a dû coucher dans un hôtel inconnu, réveillé par une crise, se réjouit en apercevant sous la porte une raie de jour. Quel bonheur, c'est déjà le matin. Dans un moment, les domestiques seront levés, il pourra sonner, on viendra lui porter secours. L'espérance d'être soulagé lui donne du courage pour souffrir. Justement, il a cru entendre des pas. Les pas se rapprochent, puis s'éloignent. Et l'arrêt de jour qui était sous sa porte a disparu. C'est minuit. On vient d'éteindre le gaz. Le dernier domestique est parti et il faudra rester toute la nuit à souffrir sans remède.
Pendant un long espace de temps,
je me rendormais et parfois je n'avais plus que de courts réveils d'un instant, le temps d'entendre les craquements organiques des boiseries, d'ouvrir les yeux pour fixer le kaléidoscope de l'obscurité, de goûter grâce à une lueur momentanée de conscience le sommeil où étaient plongés les meubles, la chambre. le tout dont je n'étais qu'une petite partie et à l'insensibilité duquel je retournais vite m'unir. Quelquefois, comme Ève naquit d'une côte d'Adam, une femme naissait pendant mon sommeil d'une fausse position de ma cuisse. Formé du plaisir que j'étais sur le point de goûter, je m'imaginais que c'était elle qui me l'offrait. Mon corps, qui sentait dans le sien ma propre chaleur, voulait s'y rejoindre. Je m'éveillais. Le reste des humains m'apparaissait comme bien lointain auprès de cette femme que j'avais quittée il y avait quelques moments à peine. Ma joue était chaude encore de son baiser, mon corps courbaturé par le poids de sa taille. Si, comme il arrivait quelquefois, elle avait les traits d'une femme que j'avais connue dans la vie, j'allais me donner tout entier à ce but, la retrouver. Comme ceux qui partent en voyage pour voir de leurs yeux une cité désirée.
Laps de temps, plein temps. Fatigué, pas fatigué. Pas le temps, une crevette.
Tes yeux se ferment. Tu dors, tu vas dormir. Tu dors.
Peut-être l'immobilité des choses autour de nous leur est-elle imposée par notre certitude que ce sont elles et non pas d'autres, par l'immobilité de notre pensée en face d'elle. Toujours est-il que quand je me réveillais ainsi, mon esprit s'agitant pour chercher, sans y réussir à savoir où j'étais, tout tournait autour de moi dans l'obscurité, les choses, les pays, les années. Mon corps, trop engourdi pour remuer, cherchait, d'après la forme de sa fatigue, à repérer la position de ses membres pour en induire la direction du mur, la place des meubles pour reconstruire et pour nommer la demeure où il se trouvait. Sa mémoire, la mémoire de ses côtés, de ses genoux, de ses épaules, lui présentait successivement plusieurs des chambres où il avait dormi, tandis qu'autour de lui, les murs invisibles, changeant de place selon la forme de la pièce imaginée, tourbillonnaient dans les ténèbres. Et avant même que ma pensée, qui hésitait au seuil des temps et des formes, eût identifié le logis en rapprochant les circonstances, lui, mon corps, se rappelait pour chacun le genre du lit, la place des portes, la prise de jour des fenêtres, l'existence d'un couloir, avec la pensée que j'avais en m'y endormant et que je retrouvais au réveil.
Dans l'étendue qui embrasse l'univers,